Au commencement, mettons Balzac et Michelet, pour nous en écarter bientôt. Balzac, grand portraitiste, qui imprime une orientation explicative au portrait, physionomie et phrénologie, installe le portrait dans le régime de la production du sens par la figure, le corps, les os et les bosses, les poils et les rides. Michelet, pendant le nom littéraire de Balzac, qui traque dans les estampes, peintures, gravures et marbres, ce qui, dans la figure, explique l'homme. Scrutant les visages, il remonte par eux à ce que la race, la nation, la famille produisent dans la constitution d'une personnalité individuelle. Ainsi, dans l'histoire de la Révolution française, arrivé au temps féroce de la Convention, on voit Michelet supplémenté par une note, le portrait déjà commencé ailleurs de Marat, dont il faut alors que les traits expliquent les orientations et pour lequel il faut que les antécédents physiologiques relient le physique au moral. Je cite l'extrait. Quant au désaccord singulier qu'on voit dans les traits de Marat, comme dans ses idées, il tient non pas seulement à son excentricité personnelle, mais peut-être aussi au bizarre mélange de races absolument inconciliable qui se trouvait en lui. Il était suisse d'un côté, sarde de l'autre. La race sarde est la même que celle de Malte et de l'ancienne Étrurie. Le type en est bizarre et l'on s'étonne peu de voir tant de figures monstrueuses dans les monuments de ce dernier peuple. Et ceci encore, à propos d'Henri IV, quand Michelet lit le supposé masque mortuaire du monarque, moulé en 1793 sur un visage et un corps remarquablement conservés, disait-on, et quand Michelet donc commente ici le nez et là les yeux. Il évoque le nez indirect qui semble d'un homme incertain, et pour les yeux, il écrit, ce qui est sûr et certain en cet homme, ce qui est visible, c'est l'amour. Les yeux fermés couvent de tendres pensées et continuent toujours leurs rêves. Volume 13 de l'Histoire de France. Le portrait se fait physiologique, il dit l'anatomie, la complexion et jusqu'au tempérament glandulaire du modèle, comme l'écrivait Henri Bouillet dans un travail un peu ancien dont le titre était « Portraits et miroirs ». Dans les mémoires d'outre-tombe, entre histoire et littérature, Chateaubriand mobilise lui aussi la fonction explicative du portrait historique. Fabienne Bercegol a montré comment, dans et par les portraits des derniers Bourbons, des révolutionnaires ou de Napoléon, il s'agit pour lui d'éclairer les mobiles des actions par l'analyse des personnalités, des opinions, avec l'ambition d'aider à comprendre la situation historique radicalement nouvelle préparée par ces figures historiques. Il n'est pas d'ailleurs jusqu'au physique qu'il ne soit parfois convoqué, hein, puisque Fabienne, dans ce texte, rappelait que le fait que Chateaubriand faisait mention d'infirmité de l'âme et du corps qui conduisait à des formes de violence radicale à certains révolutionnaires. Une même démarche herméneutique est à l'œuvre chez Balzac. Le père Goriot, exemple canonique, s'ouvre sur une galerie de portraits qui sont d'emblée surdéterminés. Premier extrait, très bref, à propos de Rastignac, sa tournure, ses manières, sa pose habituelle, dénotait le fils d'une famille noble, où l'éducation première n'avait comporté que des traditions de bon goût. Et à propos de Vautrin, un peu plus loin, déjà moins superficiel que ne l'étaient ces jeunes gens, emportés par les tourbillons de la vie parisienne, ou ces vieillards indifférents à ce qui ne les touchait pas directement, ne se seraient pas arrêtés à l'impression douteuse que leur causait Vautrin. Souvent, il laissait percer l'épouvantable profondeur de son caractère. Il y avait au fond de sa vie un mystère, profondément enfoui. Le récit balzacien donne à voir ce qui est visible, niveau dénotatif, et ce qui l'est moins, ne l'étant que par l'omniscience de ce narrateur, habilité à sentir le fond, là où les autres voient la surface, de Vautrin dans l'exemple ci-dessus. Ces deux cas, c'est-à-dire Balzac et Michelet, illustrent un usage que je dirais positif du portrait dans le récit ou dans l'historiographie. Un tel positivisme implique l'apport d'un savoir sur tel personnage, fictif ou réel. Dans ce dernier cas, dans l'exemple de Michelet, le portrait écrit assure et affirme sa ressemblance avec le portrait peint ou gravé, c'est le second tour de la mimésis, lequel, portrait peint ou gravé, est évidemment ressemblant à la personne réelle puisqu'il est produit à cet effet. C'est donc le premier tour de la mimésis. Et on comprend du coup pourquoi Michelet jubile tout particulièrement lorsqu'il a affaire à un masque mortuaire, car alors les traits moulés sont un, croit-on, parfait négatif de la personne. Le savoir procède d'une observation de la réalité des visages, excluant donc en théorie l'imagination. La délivrance d'un savoir sur un individu se fonde à nous, très logiquement, sur une poétique du portrait qui suppose un rapport hiérarchique entre l'auteur ou l'historien et ses lecteurs, et sur un rapport de maîtrise, donc. Comme en tout processus herméneutique, la maîtrise consiste à révéler le sens et, en somme, à constituer une chaîne causale par laquelle s'éclaire et s'explique la présence et l'aspect de tel personnage dans l'ici et maintenant, du récit ou de l'histoire. Ainsi, du trait dénotatif de la belle éducation de Rastignac, qui le lie à l'avant, fils d'eux, et le prépare pour l'après, la société du Faubourg Saint-Germain. L'être là au présent de la pension Vauquer n'est qu'une sorte d'accident de la substance de Rastignac, en quelque sorte, dont la figure est d'emblée et déjà complète en puissance. Pour Vautrin, la technique est autre, mais l'intention est identique. Balzac installe le motif de la permanence qui se confond avec ce qui est caché. Épouvantable profondeur, mystère profondément enfoui. Le lecteur est appelé au spectacle des dessous, là encore, déjà et d'emblée. Il n'y a pas moyen d'approcher un personnage par le portrait sans être confronté à ce qu'il est, de sorte que la personnalité tout entière est là, en une sorte de préalable matriciel. D'où cette poétique dans laquelle, peut-être au risque de la vraisemblance d'ailleurs, le rendu des traits et des impressions saisies sur le vif, quand il s'agit de la première rencontre avec des personnages, ce rendu des traits est perfusé en quelque sorte par un discours omniscient, plus ou moins intempestif. La situation, on s'en doute, est assez différente chez Flaubert. Dans un article sur la génétique du portrait de Salammbô, qui porte tout particulièrement sur les deux chapitres où Salammbô est central, le serpent est sous la tente, et donc où Salammbô devrait accéder à une bonne visibilité à la fois physique et psychologique, Éric Le Calvet ne peut que conclure de la manière suivante. On ne saurait pourtant visualiser Salammbô, son corps même dévoilé, se morcelle, et ses fragments disjoints flottent dans le non-dit ou l'impossible. Les Goncourt, à qui Flaubert avait lu Salammbô encore inachevé mais rédigé jusqu'à la Bézade, pardon, avec Matteau, notaient déjà ceci en date du 6 mai 1861. Puis il y a une grande fatigue dans ces éternelles descriptions, dans ces signalements, bouton à bouton, des personnages, dans ce dessin miniaturisé de chaque costume. La grandeur des groupes disparaît par là, les effets deviennent menus et concentrés sur un point, les robes marchent sur les visages, les paysages sur les sentiments. Flaubert était bien conscient du problème, dès le premier portrait de son héroïne au chapitre 1, puisqu'il l'écrivait à ce propos à Louis Bouillet. On était en 1857. « J'ai introduit ma petite femme au milieu des soldats », c'est le chapitre sur le festin, « à force de lui fourrer sur le corps des pierres précieuses et de la pourpre, on ne la voit plus du tout. » S'il ne s'agit jamais chez Flaubert d'expliquer ses personnages par leur portrait, puisqu'il s'agit toujours pour lui de ne pas expliquer, hein, ne pas être discutant mais exposant, il faut quand même bien remarquer ici un aspect singulier de la poétique du portrait, plus grave peut-être, hein, c'est « ne pas bien donner à voir ». Le portrait, peint ou écrit, peut évidemment ne pas chercher à faire signifier ce qu'il montre, mais en règle générale, il montre. Plus largement, la description, selon Bernard Vouilloux, repose sur, je cite, « la prémisse implicite que les énoncés descriptifs sont subordonnés, temporellement et causalement, à une expérience visuelle, réelle ou feinte, en sorte que le texte non seulement enregistre les caractères propres à chaque vision, mais les rend perceptibles au lecteur. » C'est d'une telle conception que pourront découler, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la théorie des deux régimes d'écriture, l'un myope, l'autre presbyte. Que Flaubert soit du côté des myopes, la chose est bien connue, lui-même le revendiquait. Je cite « Je sais voir, et voir comme voient les myopes, jusque dans les pores des choses ». Seulement, chez lui, la partition myope-presbyte, qui est assimilée chez les Goncourt ou chez Ducamp, à une distribution esprit analytique, esprit synthétique, classique, romantique, sensation, sentiment, cette partition ne vaut guère. La myopie se présente plutôt chez lui comme une approche de la matière même du monde qui s'impose dans la tentation de Saint-Antoine, hein, très clairement. Myopie qui apparaît alors comme mode d'accès au grainé fin de la réalité, d'un point de vue plus philosophique au fond que descriptif. Pourtant, il y a bien accusation de myopie, de Flaubert, hein, par Sainte-Beuve et pour Salammbô, justement. Mais on va le voir en quelques instants, cette accusation s'infléchit très vite et devient autre chose. Voilà un extrait donc, de ce que Sainte-Beuve écrit sur Salammbô, qui est cité par Bernard Vouilloux, d'ailleurs, hein, dans l'article auquel je me référais. Sainte-Beuve, « L'auteur ne se tient pas au-dessus de son ouvrage. Il s'y applique trop, il a le nez dessus. Ça c'est l'évocation de la myopie. Il ne paraît pas l'avoir considéré avant et après dans son ensemble, ni à aucun moment le dominer. Jamais il ne s'est reculé de son œuvre assez pour se mettre au point de vue de ses lecteurs. C'est bien l'absence de surplomb ou de maîtrise, corrélée au défaut de prise en charge du lecteur, qui constitue le nœud du problème. La myopie se voyant quasiment réduite ici à un préalable, voire une métaphore. C'est vrai qu'au fond, la myopie pourrait bien simplement servir à faire image dans un contexte critique où l'on parle alors beaucoup de cette double modalité myopie-presbytie. Et en fait, il vaut mieux penser Flaubert dans un autre registre que celui de la vue. Dans le registre de la vue, il y a des myopes, il y a des presbytes, il y a des photographes, pense-t-on à l'époque, hein. Et il vaudrait mieux le penser dans le registre de la vision, qui a franchi le regard de la fonction de l'organe et de la restitution stricte de la chose vue. Via la vision, le monde, c'est ma représentation. En Égypte, dit Yvan Leclerc dans un article intitulé « Portrait de Flaubert et de Maupassant en photophobe », en Égypte, il y avait du photographiable réservé à Maxime Ducamp et du notable que Flaubert consignait sur ses carnets. Le mépris de la photographie, considéré au moment de son développement rapide et massif comme un moyen mécanique et pas encore comme un art, est proportionnel, on le voit, à la conception d'un regard artiste singulier, non contraint par la possibilité de duplication mimétique d'un morceau de réalité. La pratique flaubertienne du portrait est à la hauteur de cette position. Le portrait ne sera ni posé, ni fixé, pas même le sien. Je cite Flaubert, « Je ne veux pas être portraituré. Mes traits ne sont pas dans le commerce. J'ai toujours été implacable sur cette question, pas de portrait à aucun prix. J'ai mon idée là-dessus et je veux être le seul homme du XIXe siècle dont la postérité puisse dire « Il ne s'est jamais fait représenter, souriant à un photographe, la main dans le gilet et une fleur à la boutonnière. » Pas de portrait. En somme, Salammbô, même dévoilée, reste mal vue. Toute de pierreries vêtue, la chair lui manque. Elle est costume, voile, robe, pierre, incidemment épaules nues, chaînette d'hymen qui se brise, mais son visage. Flaubert a l'art de ne pas fixer les visages, de ne pas les modeler, ni sur le vif, ni sur le mort. Et je renvoie à propos du visage sur le mort au dernier portrait d'Emma. Elle vient de mourir, en voici quelques extraits. Le coin de sa bouche qui se tenait ouverte faisait comme un trou noir au bas de son visage et ses yeux commençaient à disparaître dans une pâleur visqueuse qui ressemblait à une toile mince, hein, comme si la mort venait rejeter un voile sur ce qui s'est tout juste et insuffisamment de toute façon dévoilé au fil du roman. Alors donc, je reviens, madame, à Flaubert, à l'art de ne pas fixer les visages. Tout le monde sait que madame Bovary ne ressemble à rien et qu'elle est donc d'une plastique extraordinaire dont les traits, successivement donnés dans le roman et agrégés par un logiciel utilisé par la police en Amérique du Nord, donnent ceci que vous avez en première page. Alors, vous trouvez cela, vous trouvez l'image sur le site Flaubert, ils l'ont importé, mais au départ, on le trouve sur le site de l'Obs, avec la légende suivante que je vous lis. L'écrivain Brian Joseph Davis, sur le site Composite, se propose de dresser à partir de ce genre de description un portrait robot. Il utilise pour cela le logiciel FACE ou FACES, utilisé par différents corps de police en Amérique du Nord. N'importe quel utilisateur peut lui commander un portrait. Il suffit d'envoyer le nom d'un personnage et un passage descriptif qui sera auparavant traduit en anglais. Alors, plus sérieusement, Bruna Donatelli a collecté les illustrations de couverture de Salammbô et Madame Bovary depuis que la première de couverture porte une illustration. Il n'est pas inintéressant de prendre connaissance de ces femmes diverses dont la variété de physionomie, de couleur de cheveux, de tournure, de port révèle la fragilité et l'incomplétude du portrait littéraire de l'héroïne. Ainsi voit-on Emma Bovary prendre figure au gré des modes ou des éditions. La peinture domine comme médium d'illustration, alors tendance réaliste, Courbet ou Corot, tendance impressionniste, Manet, Monet, Renoir, tendance anachronique, Klimt, Modigliani, et puis hors peinture, plus rare, tendance BD sexy. Il y a en particulier la couverture de Penguin pour les 60 ans de la collection, présente le dessin d'un bas de corps de femme perché sur de hauts talons, sans tête donc, et presque attrapé par deux mains d'hommes. qui est représenté lui-même sur le dos du livre. Et elle est nue sous une gaze. Hein, donc une Emma sexy, mais une Emma sans tête, finalement. Donc Madame Bovary est une figure en creux qui supporte tous les assauts éditoriaux sans y perdre grand-chose, hein, puisqu'elle est une femme ouverte à l'égal de Salambeau. C'est à propos de cette dernière, de Salambeau, et à propos de propositions d'illustration qui lui étaient parvenues, que Flaubert s'enrage. La citation est bien connue, mais je la reprends quand même ici. « Jamais, moi vivant, on ne m'illustrera, parce que la plus belle description littéraire est dévorée par le plus piètre dessin. » Du moment qu'un type est fixé par le crayon, il perd ce caractère de généralité, cette concordance avec mille objets connus qui font dire au lecteur « j'ai vu cela » ou « cela doit être ». L'idée est dès lors fermée, complète, et toutes les phrases sont inutiles, tandis qu'une femme écrite fait rêver à mille femmes. Donc, ceci étant une question d'esthétique, je refuse formellement toute espèce d'illustration. On pourrait ajouter à ces assauts éditoriaux dont je viens de parler, les assauts critiques. Delphine Jaillot a synthétisé les interprétations critiques de Madame Bovary depuis un siècle et demi. Surface de projection, Emma est telle que la pensent les hommes. Les critiques ont été majoritairement masculins jusqu'à assez tard dans le XXe siècle. Elle est telle que la font et la défont les temps de la morale. Sensuelle ou romanesque, c'est l'enjeu du premier siècle. Quand la femme effraie et qu'il faut la réduire par le procès ou par le romanesque de sa nature comme alternative à sa volupté triomphante. Masculine pour Baudelaire, qui ne voit en Emma presque que cet étrange lorgnon d'écailles passé entre les deux boutons de son corsage qu'elle porte comme un homme, hein, le texte dit comme un homme, lors de la première rencontre avec Charles. Baudelaire loue en elle cette capacité virile de choisir et de persister dans ses choix, irréductiblement. Puis elle sera perçue de manière bovariste, hein, depuis Jules de Gautier, c'est-à-dire sensuelle et romanesque à la fois. Ensuite, paysanne transfuge, lectrice et enfin triomphalement désirante, comme en une assomption de la vision baudelairienne, quand la société autorise enfin à dire le désir féminin. Protée physique et morale, le personnage a en elle assez de jeu, d'air, pourrait-on dire, en songeant à la scène où le tour de Binet la tire vers le bas, quand Rodolphe vient de la trahir, je cite, « elle se tenait tout au bord, presque suspendue, entourée d'un grand espace ». Le bleu du ciel l'envahissait, l'air circulait dans sa tête creuse. Elle n'avait qu'à céder, qu'à se laisser prendre. On pourrait aussi bien d'ailleurs citer ce passage qui est pris dans son premier portrait au Berthaud. On s'était dit adieu, on ne parlait plus. Le grand air l'entourait, le vent pêle-mêle, les petits cheveux follets de sa nuque. Comme si Emma était vouée au vent avec son pouvoir de dispersion et de dissémination. Il y a donc en elle assez de jeu pour qu'elle puisse être toutes les femmes, comme l'écrit Pierre Michon. La prose flaubertienne et ses principes d'écriture sont tels, impersonnalité, voix d'auteur absente, écriture exposante, dissémination, qu'Emma est celle que chaque lecteur veut ou peut y voir. La pratique du portrait dans Madame Bovary, on le voit, met en défaut la représentation normée de la personne d'Emma qui produirait une figure entière. Hein, c'est cette fameuse idée complète dont Flaubert parlait dans l'extrait que j'ai, la citation de tout à l'heure, qui produirait une figure entière comme dépliée et portée par le déroulement chronologique du texte et par les accompagnements explicatifs et anticipateurs d'un narrateur tenant le discours du maître, de manière à retenir et soutenir l'attention du lecteur dans un espace-temps narratif spécifique, la séquence portrait, garante de la composition d'un ensemble recevable sur le modèle balzacien, grosso modo. Dans la partie de son étude sur Chateaubriand, qu'elle consacrait à la définition du portrait comme genre, Fabienne Bercegol a dégagé un certain nombre de critères relativement consensuels autour de l'unité et de la continuité du portrait. Il présente une unité textuelle et une autonomie liées à son caractère statique. L'arrêt de la narration permet de centrer l'attention sur l'être d'un personnage. Fragment autonome et détachable, il double sa cohésion interne par la mise en place de formules seuil et l'usage interne de temps verbaux spécifiques. Et à ce prix, il peut rester une catégorie distincte de celle beaucoup plus diffuse de personnages dont il est un des aspects. Alors bien entendu, ces critères sont, ce que je viens de rappeler, sont fréquemment contournés par les écrivains et plus encore lorsque, au XIXe siècle, le champ des images se trouve profondément reconfiguré, comme le rappelle Bernard Vouilloux, dans une analyse des travaux de Ten sur la production mentale des images. Ce champ se trouve reconfiguré par la photographie, qui s'étend rapidement, par la nouvelle peinture, Courbet-Manet, les impressionnistes, et enfin par les recherches de l'optique et de la psychologie sur la fabrication des images mentales. Alors même que la photographie est perçue comme confisquant les valeurs d'imitation et de vue objectivée du réel, la subjectivité de la vision se développe comme principe de la nouvelle peinture, tout comme de la production mentale des images. On se souvient qu'on voit Taine demander à Flaubert comment et avec quelle intensité il voit imaginairement une rue de Tostes ou la taille et le visage d'Emma. Le portrait en peinture, j'en viens à la peinture, avec Courbet, absente le personnage, l'absorbe, dans les fameux autoportraits endormis, par exemple, ou bien le déporte vers la présentation du geste du peintre, je renvoie aux travaux de Michael Fried. Avec Manet, le redressement du personnage dans le tableau, sa frontalité, l'usage souverainement subjectif de la couleur à rebours de la réalité, dans les fonds ou en aplat, font du portrait en face-à-face inédit avec le spectateur. Quelques années plus tard, dans la lettre qu'il écrit à sa sœur Wilhelmine, Van Gogh a ces mots lumineux, me semble-t-il, c'est l'extrait numéro 2. Ce qui me passionne le plus, beaucoup, davantage que tout le reste dans mon métier, c'est le portrait moderne. Je le cherche par la couleur et ne suis certes pas seule à le chercher dans cette voie. Je voudrais, tu vois, je suis loin de dire que je puisse faire tout cela, mais enfin, agitant, je voudrais faire des portraits qui, un siècle plus tard, aux gens d'alors, apparussent comme des apparitions. Donc, je ne nous cherche pas à faire par la ressemblance photographique, mais par nos expressions passionnées, employant comme moyen d'expression et d'exaltation du caractère notre science et goût moderne de la couleur. Ainsi, le portrait du docteur Gachet vous montre un visage couleur d'une brique surchauffée et hâlée de soleil, avec la chevelure rousse, une casquette blanche dans un entourage de paysages fond de collines bleues, son vêtement est bleu d'outre-mer. Cela fait ressortir le visage et le pâlit, malgré qu'il soit couleur brique. Les mains, des mains d'accoucheur, sont plus pâles que le visage. Devant lui, sur une table de jardin rouge, des romans jaunes et une fleur de digital pourpre sombre. Mon portrait à moi est presque aussi ainsi. Le bleu est un bleu fin du midi et le vêtement est lilas clair. Le portrait d'Arlésienne est un ton de chair incolore et mat, les yeux calmes et fort simples, le vêtement noir, le fond rose, et elle est accoudée à une table verte avec des livres verts. Mais dans l'exemplaire avec Anatéo, le vêtement est rose, le fond blanc jaune et le devant du corsage ouvert de la mousseline d'un blanc qui tourne sur le vert. Dans toutes ces couleurs claires, les cheveux seuls, les cils et les yeux font des taches noires. Dans cette belle évocation, la description des portraits tient en des camaïeux de couleurs, en effet, déclinés en variations, en essais successifs. Un univers de couleurs se substitue à des informations de position, de posture, de gestes ou de physionomie. Le docteur Gachet, que fait-il? Comment se tient-il? Rien ne le dit. Et les choses autour de lui, casquettes, tables, romans ou fleurs, ont cessé d'être des objets organisés autour et pour le personnage, racontant une histoire qui serait son histoire. Ils ne sont plus là que pour supporter une couleur. Blanche, rouge, jaune, pourpre. L'évocation de l'autoportrait, puis de l'arlésienne, est plus étonnante encore. La syntaxe se simplifie, devenant elle-même juxtaposition colorée, au sein de laquelle percent ça et là les yeux, les cheveux, les cils, et le désir par ce biais de peindre des apparitions. Ce qui se passe en peinture et qui prend sous la plume de Van Gogh la forme d'un portrait moderne par la couleur trouve des équivalents en littérature et chez Flaubert pourrait s'appeler portrait en style. La pure contiguïté colorée des éléments du tableau, qui égalise le personnage et l'entourage de collines bleues, tables rouges, romans jaunes et fleurs pourpres, cette composition qu'organise la seule composition entre guillemets, qu'organise la seule variation de la couleur, pourrait bien trouver son équivalent dans la coprésence étale, peut-être un peu amorphe aussi, d'Emma et des éléments du décor dans l'apparition de la fille du père Rouault. Et c'est l'extrait numéro 3. J'ai mis deux extraits du début du portrait, à des moments différents. Une jeune femme en robe de mérinos bleue, garnie de trois volants, vint sur le seuil de la maison pour recevoir Monsieur Bovary, qu'elle fit entrer dans la cuisine où flambait un grand feu. Le déjeuner des gens bouillonnait alentour dans des petits pots de taille inégale, des vêtements humides séchés dans l'intérieur de la cheminée, la pelle, les pincettes et le bec du soufflet, tous de proportions colossales, brillaient comme de l'acier poli, tandis que le long des murs s'étendait une abondante batterie de cuisine où miroitait inégalement la flamme claire du foyer, jointe aux premières lueurs du soleil arrivant par les carreaux, et puis ceci un peu plus loin, quelques pages plus loin, sur une autre rencontre entre Charles et Emma. C'est un passage bien connu. Des mouches sur la table montaient le long des verres qui avaient servi et bourdonnaient en se noyant au fond dans le cidre resté. Le jour qui descendait par la cheminée, veloutant la suie de la plaque, bleuissait un peu les cendres froides. Entre la fenêtre et le foyer, Emma cousait. Elle n'avait point de fichu, on voyait sur ses épaules nues de petites gouttes de sueur. Un effet d'estompé et de fusion des plans, comparable à ce qui se fond par la couleur chez Van Gogh, est sensible ici. Emma semble prise dans son fond, cet intérieur de ferme, tout en éblouissement et reflet d'abord, puis dans ce bleu veloutant le fond de la cheminée qui guide le regard vers le personnage. Pour l'instant, on ne l'avait pas encore vu. C'est-à-dire qu'il faut passer par cette lumière bleue qui passe par les cendres de la cheminée pour qu'enfin on arrive à voir un morceau d'Emma, enfin l'épaule nue en tout cas. Quelque chose retient la figure chez Flaubert comme chez Van Gogh en même temps qu'elle la révèle. En même temps, on pourrait même dire en même temps qu'elle la produit. On voit monter la figure, elle émerge de la couleur chez Van Gogh et elle a quelque chose de calme et fort simple, comme sont les yeux de l'Arlésienne, écrit-il. Elle monte du commun du monde paysan, qui est matière et couleur, suie et cendre bleutée, chez Flaubert. Ce monde paysan, on le trouve aussi, on sait très bien qu'il existe et qu'il est très important chez Van Gogh, dont l'univers est peuplé de paysans, paysannes, silhouettes aux champs, sabots ou souliers, dont je reparlerai un peu plus tard. Jacques Rancière a bien montré, au fil de ses ouvrages, la manière dont le roman flaubertien se fait le révélateur de ce partage du sensible qui est la condition de la démocratie nouvelle et qui permet au commun de prendre place dans le roman. J'y reviens dans un instant, mais je voudrais m'arrêter un tout petit moment sur l'apparition de la figure à partir du fond. Cet intérieur paysan cossu, où tout lui, reluit, éblouit, et en même temps retient, retarde la figure féminine. En l'absence de paroles auctoriales, rectrices et hiérarchisantes, nous ne dirons pas que le personnage d'Emma dépend d'un système réaliste de représentation. En fait, l'impersonnalité laisse les choses se présenter d'elles-mêmes. On se souvient que Maupassant, le premier, a formulé avec une grande acuité ce qui se joue chez Flaubert. C'était dans la Revue Bleue en 1884. Il écrit « C'était la vie... » Il parle de l'écriture de Flaubert. « C'était la vie elle-même apparue. On eût dit que les personnages se dressaient sous les yeux en tournant les pages, que les paysages se déroulaient avec leur tristesse et leur gaieté, leurs odeurs, leurs charmes, que les objets aussi surgissaient devant le lecteur, à mesure que les évoquait une puissance invisible, cachée, on ne sait où. » L'architecture du texte, écrit Bernard Vouilloux, ce n'est pas, à propos de Flaubert, ce n'est pas l'auteur qui la montre, c'est l'œuvre qui la monte. Et il compare cette pratique, cette écriture, à celle des murs de pierre sèche, sans joint, ajoutant que la juxtaposition est devenue le mode expositionnel de la vieille composition. En l'absence de tout système, montent ensemble le fond et la figure. On se souvient d'ailleurs au passage que Flaubert se plaignait, mais en fait constatait tout simplement, que ses fonds dévoraient ses premiers plans dans l'éducation sentimentale. Ça ne fait pas la pyramide, mes fonds dévorent mes premiers plans. Ça fait partie effectivement de l'esthétique de l'éducation sentimentale. Donc montent ensemble le fond et la figure, tout comme ce sont les couleurs qui montent chez Van Gogh et qui expriment, qui presque, comme une éponge un peu, une figure, sans que, là encore, le peintre-maître n'ait ordonné préalablement la représentation. C'est ainsi que la vie ou les choses ou les êtres peuvent être apparus ou apparaissants, selon les termes ou de Van Gogh ou de Maupassant. La vie elle-même apparue, des portraits qui apparussent comme des apparitions. La terminologie nous place, on le voit bien, du côté de la phénoménologie. Esthétiquement, l'apparition n'est pas la transcription d'un préalable, mais le surgissement même de ce qui se donne à voir, et parfois, et même souvent, partiellement, relativement mal. Poétiquement, elle suppose l'absence de tout système et d'être amenée par la couleur ou par la prose à ce qu'on pourrait appeler la prise imaginaire. Hugo von Hofmannsthal, dans « Lettres du voyageur à son retour », rend compte de sa visite à une exposition Van Gogh en 1901 et il y rend compte du bouleversement qu'a produit sa rencontre de la couleur. Je cite, je ne l'ai pas mis dans l'exemplier, « Mais que sont les couleurs tant que la vie la plus intérieure des objets ne s'y révèle pas? À présent, je pouvais sentir combien leur vie profonde, celle des tableaux, affleurait dans la couleur, combien les couleurs vivaient l'une par l'autre, comment l'une, d'une mystérieuse puissance, supportait toutes les autres, et je pouvais en tout cela deviner un cœur, l'âme de celui qui l'avait fait et qui répondait pour lui-même, par cette vision, au spasme du doute plus terrible. Intéressante aussi est chez lui, chez Hofmannsthal, la mention de la nécessité de regarder à deux fois cette peinture, dont les couleurs d'abord lui parurent, je cite, « crues et tourmentées, très hâtives, très étranges. Je dus me ressaisir pour voir déjà dans les premières d'entre elles une image, une unité. Mais par la suite, j'ai vu. Je les ai ensuite toutes vues, chacune en particulier et toutes ensemble, et aussi la nature en elle et la force de l'âme humaine qui avait donné forme à cette nature. » Hofmannsthal rend compte de la manière du peintre, mais au-delà, surtout, il rend compte de l'effet produit sur le spectateur par cette peinture nouvelle. L'effet, voilà ce qui est mis en avant dès lors que le système de représentation et de composition organisant la réception sont caduques. Hein, je rappelle, Vouilloux, l'architecture du texte, c'est l'œuvre qui la monte, et il ajoute, c'est donc au lecteur qu'il appartient de la dégager, un lecteur qui n'est jamais sollicité en tant que tel. Le texte flaubertien, je suis toujours dans la citation, ne tolère le lecteur qu'à sa place, non pas en vis-à-vis de l'auteur, lequel s'est retiré, mais face à l'œuvre. Si la neutralisation de l'instance auctoriale interdit au lecteur de se poser en vis-à-vis conversationnel de l'auteur, elle requiert qu'il reporte toute son attention sur l'œuvre en tant que totalité offerte à la compréhension, à l'interprétation et à l'appréciation. Je pense que c'est un passage très, très important et très riche là, que propose Vouilloux. En somme, si je reviens à mes histoires de portraits, en somme, le portrait n'apprend rien, n'est pas une modalité rhétorique de la signification. Il fonctionne, à l'instar du reste du texte flaubertien, comme puissance de signification et aussi puissance d'émotion. Dans ce nouveau régime de l'art d'écrire où l'écrivain est n'importe qui et le lecteur n'importe qui, on aura reconnu Jacques Rancière, il suffit de savoir lire l'imprimé, je cite toujours, la démocratie de l'écriture révoque la distinction entre les hommes de la parole en acte et les hommes de la voix souffrante et bruyante, entre ceux qui agissent et ceux qui ne font que vivre. Dans l'art lui-même, Rancière rappelle, il n'y a plus de sujet noble et de sujet vil, et rien ne sépare ce qui appartient à l'art de ce qui appartient à la vie prosaïque. Ainsi, ceux qui ne font que vivre et qui désormais savent lire sont aussi à leur place dans l'œuvre que ceux qui agissent. À vrai dire, dans le nouveau régime de la littérature, tout comme dans la nouvelle peinture, c'est à la fois la place du spectateur qui se voit profondément repensé et le sujet de la peinture. Les hommes qui agissent, les orateurs, les princes, ceux qui jusque-là faisaient l'histoire, ne sont pas les sujets des portraits modernes. Mais le docteur a gâché, ou tel écrivain, on pense à Zola, ou un buveur d'absinthe, l'Arlésienne. Le facteur Roulin auquel Pierre Michon a consacré une petite vie toute pleine de couleurs et de peintures, mais aussi des bourgeois, mais aussi les paysans, les simples, sont les élus de ces apparitions, de cette peinture du portrait moderne qui cherche l'apparition. Emma Rouault est une fille de paysan que le roman flaubertien expose au, je cite là les mots de Rancière, au repartage du sensible qui annule la différence entre deux humanités, entre les êtres destinés aux grandes actions et aux passions raffinées, et les êtres voués à la vie pratique et positive. Fin de citation. De cette annulation, la scène du bal à la Vaubyessard est symptomatique, tout particulièrement lorsqu'au plus fort du plaisir d'Emma surgit l'image d'elle en paysanne, écrémant le lait avec le doigt, image aussitôt évanouie, aussi vite arrivée que dissipée, tant sont jouissives les fulgurations de l'heure présente. L'entrouverture de cette fenêtre sur le passé paysan se joue dans le roman à ce moment-là en raison de l'apparition, pour de vrai je dirais, contre les carreaux de faces de paysans qui regardaient. Au moment où les domestiques ont cassé les vitres pour donner un peu d'air dans le bal. Double signe vers le commun, dont procède Emma, nous l'avons vu, pour son entrée dans le roman, et dont procèdent plus encore ces paysans dont rien ne sera dit sinon qu'ils regardaient. Absolument. Éphémère mais pure présence qui produisent cet effet de très brève étrangeté à soi chez Emma. Relevant le fait que les petites gens ont toujours eu leur place dans la fiction, Jacques Rancière rappelle que c'était, je cite, « pour amuser le parterre en agissant et en parlant comme il convient aux gens de leur sorte ». La fiction nouvelle détruit cette distribution des rôles et Rancière de démonter l'effet de réel de Barthes pour montrer que le baromètre de Madame Aubin n'est pas là pour attester le réel, comme le pensait Barthes ou comme le proposait Barthes, mais parce que, je cite Rancière, il résume tout un monde sensible, celui de ceux qui vivent dans la succession des travaux et des jours. par rapport à ceux qui, les puissants et les grands, qui vivent dans la temporalité des fins. Rancière ajoute ceci, l'être le plus humble, le plus quelconque, est désormais accordé aux grandes intensités du monde. Il a la capacité de transformer la routine de l'existence quotidienne en abîme de la passion, que celle-ci s'adresse à un jeune homme ou à un perroquet empaillé. C'est ainsi que deux petites gens passent dans Madame Bovary, inscrivent une trace dans le roman et, un peu à l'égal du baromètre, semblant ne servir à rien, sont là. Il en est ainsi du joueur d'orgue qui apparaît dans la première partie au plus fort de l'ennui d'Emma. C'est la première partie à Tot. Figure anonyme, il est cependant nettement dessiné. On évoque sa tête hâlée à favoris noirs et qui souriait lentement d'un large sourire doux à dents blanches. Quelques lignes plus loin, il est saisi dans son geste. De temps à autre, tout en lançant contre la borne un long jet de salive brune, il soulevait du genou son instrument, dont la bretelle dure lui fatiguait l'épaule. La séquence se clôt quelques lignes plus tard encore avec la vision de son départ, quand il a reçu l'aumône, et il part d'un pas lourd. C'est bien un portrait. Teint, favori, sourire, activité, démarche. Un portrait nu, un portrait pour rien. Un portrait qui alterne avec la description du fameux petit manège qui tourne au rythme de l'orgue, hein, et qui est souvent ce dont on se souvient dans cette scène-là, et qui, pour le lecteur, fonctionne comme un rappel de la Vaubyessard, rabattant le souvenir d'Emma, le souvenir du bal, sur la petite mécanique et ramenant également le motif de la transgression des frontières entre les mondes. Mais dans cette tête d'homme qui, parce que ça c'est le début du passage, hein, une tête d'homme qui quelquefois apparaissait derrière les vitres, nous retrouvons le principe apparaissant que j'ai tenté de définir tout à l'heure, ainsi que la manière d'hybridation entre figure, la figure du joueur d'orgue, et contexte, objet. Le tout infléchi par la subjectivité d'Emma, qui est la spectatrice, hein, qui regarde cet homme et surtout ce manège, spectatrice qui injecte de l'ailleurs ou de l'autre chose dans ce qu'elle voit. Hein, je cite, « C'était des airs que l'on jouait ailleurs sur les théâtres, que l'on chantait dans les salons, que l'on dansait le soir sous des lustres éclairés. Sa pensée, c'est Emma, bondissait avec les notes, se balançait de rêve en rêve, de tristesse en tristesse. » Une couleur vient faire retenir ce tableau, qui est celle de la mélancolie, dont un peu retombe sur le joueur d'orgue, sorte de bohème vivant d'aumône, et exposé lui aussi, finalement, par son intégration dans la couleur ou dans la pâte du style, comme disait Flaubert, exposé lui aussi à cet affect raffiné qu'est la mélancolie. La mélancolie, a priori, est réservée aux dames, pas aux joueurs d'orgue. Mais là, il est pris dans cette couleur-là. Mais le personnage commun le plus saisissant du roman est sans conteste Catherine Leroux, la servante des comices. Le petit peuple accède à travers elle à un portrait magistral en termes de longueur, d'unité et de continuité. Il s'agit du portrait le plus orthodoxe du roman. Le personnage étant littéralement appelé à monter sur une estrade où la regarde l'ensemble du public réuni pour les comices agricoles. Le portrait proprement dit est encadré par une formule d'ouverture. Alors on vit s'avancer sur l'estrade une petite vieille femme, et par une autre de clôture, elle est évidemment célèbre, ainsi se tenait devant ces bourgeois épanouis ce demi-siècle de servitude. Du dialogue précède et suit la description, porteur de traits de caractère, timidité, réserve, lenteur. Enfin sa foi, la foi des simples, hein, puisqu'il s'agit de donner la médaille au curé pour se faire dire des messes. La séquence dans son intégralité couvre deux pages, dimension remarquable, pour un personnage qui n'engage rien d'autre que lui-même et qui est une de ces petites vies qui ne joue apparemment aucun rôle dans la diégèse ou le destin d'Emma. Ce n'est pas le cas de l'aveugle, hein, que je n'ai pas le temps de travailler, mais qui est évidemment chargé symboliquement. Hein, il est censé représenter la conscience, le destin, la mort, le prix à payer, etc. En même temps, c'est aussi un pauvre qui finit à l'hospice, expédié et liquidé par Homé. Mais là, je n'ai pas le temps d'en parler. J'ai mis le portrait, hein, intégralement dans l'exemplier. Alors on vit s'avancer sur l'estrade une petite vieille femme de maintien craintif et qui paraissait se ratatiner dans ses pauvres vêtements. Elle avait aux pieds de grosses galoches de bois et le long des hanches un grand tablier bleu. Son visage maigre, entouré d'un béguin sans bordure, était plus plissé de rides qu'une pomme de rainette flétrie. Et des manches de sa camisole rouge dépassaient deux longues mains à articulations noueuses. La poussière des granges, la potasse des lessives et le suin des laines les avaient si bien encroûtées, éraillées, durcies, qu'elles semblaient sales quoi qu'elles fussent rincées d'eau claire. Et à force d'avoir servi, elles restaient entrouvertes, comme pour présenter d'elles-mêmes l'humble témoignage de tant de souffrances subies. Quelque chose d'une rigidité monacale relevait l'expression de sa figure. Rien de triste ou d'attendri n'amollissait ce regard pâle. Dans la fréquentation des animaux, elle avait pris leur mutisme et leur placidité. C'était la première fois qu'elle se voyait au milieu d'une compagnie si nombreuse et, intérieurement effarouchée par les drapeaux, par les tambours, par les messieurs en habit noir et par la croix d'honneur du conseiller, elle demeurait tout immobile, ne sachant s'il fallait s'avancer ou s'enfuir, ni pourquoi la foule les poussait et pourquoi les examinateurs lui souriaient. Ainsi se tenait devant ces bourgeois épanouis ce demi-siècle de servitude. Catherine Leroux est un personnage inoubliable, justement parce qu'elle bénéficie d'un portrait, alors même qu'elle n'est en rien protagoniste. Elle n'est pas même un personnage secondaire, si l'on considère comme tel dans Madame Bovary les membres d'un panel allant de Homais à Lheureux, en passant par Madame Bovary-mère ou Justin. Elle est si peu nécessaire à l'intrigue que les adaptations cinématographiques, Chabrol, 91, et plus récemment Sophie Barthes en 2014, l'ignorent absolument. Ce portrait intégral, si tant est qu'un portrait puisse l'être, est d'une densité évocatoire extraordinaire, bien loin du portrait filé, retenu, disséminé, toujours un peu phagocyté par les fonds que nous avons vus jusqu'ici. La narration suspend son cours et la place du spectateur ou du regardeur n'est plus, comme c'est le cas le plus souvent dans le roman, occupé par une subjectivité, hein, par un personnage qui subjectivement embarque ce qu'il voit dans ses humeurs et dans ses désirs. C'était le cas d'Emma regardant le joueur d'orgue. Ici, la place du spectateur est la place de la foule réunie aux comices. Certes, les bourgeois, ces bourgeois épanouis de la saisissante formule finale, mais aussi la foule des petites gens. Ce commun de la foule, hein, c'est quelques pages, ce commun de la foule, c'est une citation qui précède, villageois, ménagères avec leurs grands parapluies, leurs paniers et leurs bambins, campagnardes, servantes en bas bleus, à souliers plats, à bagues d'argent, qui sentaient le lait quand on passait près d'elles. C'est donc bien là ce large public dont parle Rancière, et la fin des comices l'installe à tous les niveaux. Le spectateur est n'importe qui, l'objet du spectacle est n'importe qui. N'importe qui regarde n'importe qui, c'est exactement ça qui se joue dans la scène de mise en avant, de présentation de Catherine Leroux. La notion de commun structure véritablement ce portrait de la servante. Aussi verrons-nous, certes, en Catherine Leroux, comme l'avait proposé en son temps Luce Xiba, la représentation de l'aliénation d'une classe à une autre, du bas-peuple par la bourgeoisie. Et par conséquent, nous pourrons, nous acceptons aussi de voir en elle le support d'une critique des bourgeois de la monarchie de Juillet. Luce Xiba dégage un certain nombre d'effets de symétrie oppositionnelle dans la scène des comices entre la singularité de la figure de la servante et l'uniformité des notables, entre sa rigidité et leur mollesse, entre sa petitesse et leur expansion grasse et satisfaite, et tout cela est vrai. Certes, nous voulons bien l'y voir, mais il y a quelque chose de plus dans ce portrait que la critique des années 70-80 ne pouvait pas voir, pénétrée qu'elle était par l'idéologie marxiste de la réification. Je renvoie à Rancière aussi. Ce que ne pouvait pas voir cette critique, c'était la puissance d'égalisation, non pas sociale, mais littéraire démocratique, à l'œuvre dans la littérature du XIXe siècle, et chez Flaubert en particulier. Catherine Leroux est donc, comme Emma à la Vaubyessard l'était à sa manière, le produit de cette possibilité nouvelle de faire de l'humble, du prosaïque, le sujet de l'art. Lequel peut, sans paternalisme ni rouerie, le paternalisme et la rouerie sont dans la diégèse, hein, sont portés par le discours du conseiller de préfecture. Mais l'art d'écrire de Flaubert peut, sans paternalisme et rouerie, faire place et donner figure au commun, au très commun, de façon condensée et puissante. Faire place, donner figure, écrire le partage du sensible, telle est la politique de la littérature, autrement que par des discours. Hein, les discours, là encore, ce sont ceux qui sont représentés et moqués, ironisés à l'intérieur du roman. Au-delà du périmètre de la scène des comices, dans lequel Luce Xiba faisait jouer le portrait de la servante versus le groupe des bourgeois épanouis, il y a une autre scène et d'autres portraits qui peuvent être mis en pendant des nôtres, de notre portrait ici et de la scène tout entière. À la Vaubyessard, les premiers éléments du monde aristocratique qui soient donnés à voir conjointement à Emma et au lecteur sont les portraits de famille dans la salle de billard. Emma et Charles rentrent, et c'est la première chose que voit Emma. On voit à travers ses yeux. Alors, je vais passer rapidement sur les détails de cette scène à la Vaubyessin, parce que j'ai étudié la chose ailleurs. Je vais à l'essentiel. Ces portraits légendés, sur leur cadre d'or, représentent les grandes figures et les hauts faits des ancêtres de la famille d'Andervilliers. Premier tableau, donc, Jean-Antoine d'Andervilliers d'Hiverbonville, comte de la Vaubyessard et baron de la Fresnaye, tué à la bataille de Coutras le 20 octobre 1587. Deuxième tableau, Jean-Antoine Henri Guy d'Andervilliers de la Vaubyessard, amiral de France et chevalier de l'ordre de Saint-Michel, blessé au combat de la Hougue-Saint-Vaast le 29 mai 1692, mort à la Vaubyessard le 23 janvier 1693. Rien de comparable, encore que justement, comparable, on va le voir, avec l'attaque du portrait de la servante qui s'ouvre par l'appel de son nom. Catherine Nicaise Elisabeth Leroux de Sasseteau, la guerrière, pour 54 ans de servitude, de service, dans la même ferme, une médaille d'argent du prix de 25 francs. Hein, c'est ce que crient les organisateurs des comices. Rien de comparable. La grandeur de l'histoire d'un côté, les noms aristocratiques à particules et les titres, le service, autrement dit la servitude sans fin d'une vie de l'autre côté, et le patronyme commun, Leroux, issu d'un nom commun, Leroux, le blanc, le noir. Cependant, le portrait commençant juxtapose les touches, trois prénoms, comme un lointain écho à cet improbable prénom composé, puisqu'il y avait des tirés entre eux, de la Vaubyessard Jean-Antoine Henri Guy. Nous ici, on va avoir trois prénoms, et parmi eux, Nicaise, étymologiquement de Niké, grec, la victoire. Un prénom approprié pour qui finalement habite Sasseteau la guerrière, toponyme inventé par Flaubert, sur la base d'une ressemblance avec d'autres noms de lieux, mais c'est inventé par Flaubert. Les figures à des mondes de distance sont donc comparables par certains aspects. Et la servante peut apparaître, premier moment de la vision, hein, comme le décalque inversé des héroïques figures guerrières de la Vaubyessard. Pourtant, outre le fait que l'héroïsme de ces comtes, barons et autres amirals est très relatif, Coutras signe sans doute ici pour le marquis en question la défaite des troupes catholiques d'Henri III contre Henri de Navarre, et la bataille de la Hougue-Saint-Vaast marque la défaite française devant les troupes anglaises et hollandaises, comme le signale aimablement la note de Jacques Neff dans l'édition de Madame Bovary. Alors, outre le fait que l'héroïsme de ces gens est très relatif, ce qui réduit un peu l'écart a priori abyssal entre ces messieurs et Catherine Nicaise, le fait essentiel est que les portraits de ces messieurs sont quasiment invisibles. Ils sont pourtant présents, pris en charge par la description, mais pour se voir noyés d'ombre et déformés. Je pense que j'ai la citation juste après, je crois qu'elle y est. Puis on distinguait à peine ceux qui suivaient, car la lumière des lampes, rabattue sur le tapis vert du billard, laissait flotter une ombre dans l'appartement. Brunissant les toiles horizontales, elle se brisait contre elle en arêtes fines, selon les craquelures du vernis, et de tous ces grands carrés noirs bordés d'or sortaient çà et là quelques portions plus claires de la peinture, un front pâle, deux yeux qui vous regardaient, des perruques se déroulant sur l'épaule poudrée des habits rouges, ou bien la boucle d'une jarretière au haut d'un mollet rebondi. Dans cette étrange spatialisation de la galerie de portraits, l'étoile horizontale, la vision est empêchée. Effet de surbrillance, craquelure, brisure, aspect épars des formes peintes, les ancêtres n'ont à montrer que la légende inscrite sur les cadres. Au-delà de cette mythologie héroïque de classe, il n'y a rien à voir. Nul portrait, mais la réunion vaguement monstrueuse de morceaux de corps, où passent des indices de puissance, perruques, poudre, jusqu'au heurt final du hiatus de ceux au haut d'un mollet rebondi. Les portraits des aristocrates ne se constituent pas autrement qu'en vanité, vanité peinte qui trouve un prolongement dans la réalité diégétique, avec, presque immédiatement après, le portrait du vieux duc de la Verdière, en vieillard dégoûtant et vorace, dégoûtant de sauce. Hein. Lui aussi est marqué au fer du hiatus, d'ailleurs, au bout de la table, un vieillard mangé. De même que la touche et la couleur font littéralement le portrait moderne tel que le pense Van Gogh, l'effet verbal, son et sens caractérisent ici nos portraits. Le hiatus englue, freine, sape, au haut, par deux fois, fragilise la hauteur, justement, de ces aristocratiques et fascinants pour Emma, personnage. Et si nous revenons à Catherine Leroux, nous pouvons constater son triomphe, Niké, dans l'ordre du visible. Flaubert l'a fait visible, extraordinairement par rapport aux gens du château. Son portrait lui donne une sorte de présence souveraine que marque, me semble-t-il, la tournure « ainsi se tenait ». Entendre de cette phrase principalement sa fin, le demi-siècle de servitude, conduit à favoriser la vision d'une servante aliénée et écrasée. Mais l'adverbe « ainsi » renvoie à la manière dont Catherine Leroux se tient, pas seulement dans le dernier temps du portrait, mais dans l'ensemble de ce portrait. Autrement dit, craintive et ratatinée, oui, mais aussi avec cette rigidité qui relevait l'expression de sa figure, avec cette force et cette dureté qui apparaît dans rien amollisser ce regard pâle, et enfin avec cette placidité, dont on n'est pas sûr que chez Flaubert elle soit le signe d'une faiblesse, hein, mais plutôt d'un être animal, d'un être d'une pure présence. Bref, difficile de voir dans l'ensemble des traits la dominante de l'aliénation, me semble-t-il. Enfin, on ne peut pas ignorer le choix du verbe « ainsi se tenait ». Catherine se tient, là, devant tous et devant les lecteurs. Se tenir sonne haut et clair, surtout si on le rapporte au double hiatus de Lavaux-Biessard par lequel trébuchait le dit des personnages aristocratiques. Sur cet effet de présence souveraine, ce souvenir de Van Gogh, portrait qui, un siècle plus tard, aux gens d'alors apparus comme des apparitions, sur cet effet, je voudrais encore m'interroger un cran plus loin. Rancière, qui trace le sillon de son analyse des modalités de cette politique de la littérature, effectuant le partage du sensible, développe l'idée et la métaphore suivante. Ce que la littérature oppose alors au privilège de la parole vivante qui correspondait dans l'ordre représentatif au privilège de l'action sur la vie, c'est une écriture conçue comme machine à faire parler la vie. Une écriture à la fois plus muette et plus parlante que la parole démocratique. Une parole écrite sur le corps des choses, mais aussi une parole qui n'est proférée par personne, qui ne répond à aucune volonté de signification, mais exprime la vérité des choses à la manière dont les fossiles ou les stries de la pierre portent leur histoire écrite. Les pierres aussi parlent. Elles n'ont pas de voix comme les princes, les généraux et les orateurs, mais elles n'en parlent que mieux. Elles portent sur leur corps le témoignage de leur histoire. Et ce témoignage est plus fiable que tout discours proféré par une bouche humaine. Il est la vérité des choses, opposée au bavardage et aux mensonges des orateurs. Ainsi, l'écrivain, un archéologue, fait-il parler les témoins muets de l'histoire commune et avouer sa vérité à la société nouvelle, à la manière dont le géologue, l'antiquaire, le philologue font parler les débris de la vie, pardon, les débris sans vie, je cite encore Rancière. Catherine Leroux, mais aussi Félicité, dans Le cœur simple, sont ces pierres, ces témoins muets de l'histoire commune, que la prose flaubertienne charrie avec elle. Mais c'est aussi, bien sûr, la prose poétique de Baudelaire, ouvrant un moment une fenêtre sur l'existence commune d'une vieille femme. Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant. Chez lui aussi, chez Baudelaire aussi, la légende est accordée à la plus humble des figures. Avec Catherine Leroux, Flaubert fait parler la vie, fait entendre la parole écrite sur le corps des choses. La servante est comme un fossile ou une pierre striée portant son histoire, son visage maigre, plus plissé de rides qu'une pomme de rainette flétrie, ses mains surtout, qui sont extrêmement présentes et qui, pour moi, dévorent le reste du portrait. Je relis ce passage, des manches de sa camisole rouge dépassaient deux longues mains à articulations noueuses. La poussière des granges, la potasse des lessives, le suin des laines les avaient si bien encroûtées, éraillées, durcies, qu'elles semblaient sales, quoiqu'elles fussent rincées d'eau claire et à force d'avoir servi, elles restaient entrouvertes comme pour présenter d'elles-mêmes l'humble témoignage de tant de souffrances subies. L'effet de présence tient à ces signes, muets mais exprimant la vérité des choses, des êtres ou des situations. Et que faire d'autre que répéter une fois encore les mots de Rancière parce qu'ils sont finalement un commentaire lumineux de ce portrait. Elles portent sur leur corps le témoignage de leur histoire, et ce témoignage est plus fiable que tout discours proféré par une bouche humaine. Il est la vérité des choses, opposée au bavardage et au mensonge des orateurs. Au-delà de la fiabilité de ce qui se donne à voir, il y a la beauté rythmique et sonore de cette longue période, qui balance entre évocation de la dureté certaine de la condition de servante et la grâce de ses mains. Nouées et déliées à la fois, saisies dans le geste de l'entrouverture, humble témoignage qui est aussi geste d'offrande. Quelque chose d'absolu est présent dans ses mains, qui excède à la présentation du commun au sens où je l'entends avec Rancière depuis le début, mais qui a trait au commun entendu comme ce qui est commun aux hommes, le fait d'habiter le monde. L'effet produit sur le lecteur que je suis, par ses mains, en lesquelles se tient le personnage tout entier, m'a ramené à Heidegger, et d'abord à son analyse de l'effet produit par une paire de souliers de Van Gogh, qui alimentèrent, on le sait, une vive polémique avec Meyer Shapiro, souliers, sabots, paysans, citadins, Derrida qui passe derrière et qui se demande si c'est une paire, hein, dans la vérité comme pointure. Cette analyse de Heidegger m'a ensuite renvoyé évidemment du côté de la chose. Alors il faudrait être d'une toute autre pointure que la mienne pour aborder ces notions abominablement compliquées. J'y ai pris en non-philosophe ce que je pouvais et qui me semblait non pas éclairer mais faire écho à ce qui avait lieu dans le portrait de Catherine Leroux. Je suis évidemment obligée de laisser de côté la démonstration générale dans laquelle Heidegger, à un certain moment, engage l'évocation du tableau de Van Gogh, parce que cette analyse de l'origine de l'œuvre d'art excède très largement mon propos. Au point qui m'intéresse, cherchant à définir le produit, Heidegger choisit un produit connu, une paire de souliers de paysans. Il les évoque tels que dans la réalité, puis illustrés, je dis bien simplement illustré, dans un tableau de Van Gogh. Mais tant que l'on regarde ainsi des souliers, je cite, « sur un tableau de simples souliers vides qui sont là sans être utilisés, nous n'apprendrons jamais ce qu'est en vérité l'être produit du produit. » C'est alors que commence le passage qui m'intéresse. Autour de cette paire de souliers de paysans, il n'y a rigoureusement rien où ils puissent prendre place. C'est le tableau de Van Gogh où il y a effectivement juste un fond. Rien qu'un espace vague, même pas une motte de terre provenant du champ ou du sentier, ce qui pourrait au moins indiquer leur usage. Une paire de souliers de paysans et rien de plus. Et pourtant, dans l'obscure intimité du creux de la chaussure est inscrite la fatigue des pas du labeur. Dans la rue, des solides pesanteurs du soulier est affermie la lente et opiniâtre foulée à travers champs, le long des sillons toujours semblables, s'étendant au loin sous la bise. Le cuir est marqué par la terre grasse et humide. Par-dessous les semelles s'étend la solitude de campagne qui se perd dans le noir. À travers ses chaussures passe l'appel silencieux de la terre, son don tacite du grain mûrissant, son secret refus d'elle-même dans l'aride jachère du champ hivernal. À travers ce produit repasse la muette inquiétude pour la sûreté du pain, la joie silencieuse de survivre à nouveau aux besoins, l'angoisse de la naissance imminente, le frémissement sous la mort qui menace. Ce produit appartient à la terre, et il est à l'abri dans le monde de la paysanne. Au sein de cette appartenance protégée, le produit repose en lui-même. Un peu plus loin, l'œuvre d'art nous a fait savoir ce qu'est en vérité la paire de souliers. Ce serait la pire des illusions que de croire que c'est notre description, en tant qu'activité subjective qui a tout dépeint ainsi, pour l'introduire ensuite dans le tableau. Si quelque chose doit ici faire question, c'est que nous n'ayons appris que trop peu à proximité de l'œuvre, et que nous ne l'ayons énoncé que trop grossièrement et trop immédiatement. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui est à l'œuvre dans l'œuvre? La toile de Van Gogh est l'ouverture de ce que le produit, la paire de souliers de paysans, est en vérité. C'est donc qu'il s'agit dans l'œuvre non pas de la reproduction de l'étang particulier qu'on a justement sous les yeux, mais plutôt de la restitution en elle d'une commune présence des choses. Le tableau de Van Gogh n'est pas un portrait, pourtant il suscite la paysanne. Et dès que la paysanne advient, c'est la marche de l'être dans le monde et le lien à la terre qui entre en jeu. Quel rapport entre ces souliers et le portrait de Catherine Leroux? L'idée de la restitution par l'art d'une commune présence des choses et de la présence de l'homme aux choses, ajouterai-je pour ma part. Obligation du coup d'aller voir ce qu'est une chose pour Heidegger. Dans la chose, au terme d'une, c'est un texte bref, hein, au terme d'une minutieuse analyse, qui prend pour exemple la cruche, dont le versement, c'est sa fonction, manifeste l'eau de la source, les roches qui l'entourent, la pluie, la rosée, ou encore le vin de la vigne, et avec lui ciel et terre aussi, mais en outre l'offrande et le sacrifice auquel parfois le versement de vin est consacré. Au terme de cette analyse, donc, Heidegger définit la chose comme ce qui rassemble et retient la terre et le ciel, les divins et les mortels, ce qu'il nomme le quadriparti. Je pense que je l'ai mis ensuite. La chose retient le quadriparti, la chose rassemble le monde. Chaque chose retient le quadriparti dans un rassemblant, lié à une certaine durée, où la simplicité du monde demeure et attend. Se pose évidemment la question des moments et de la manière dont les choses deviennent choses. Elles ne viennent pas par les artifices des hommes, mais elles ne viennent pas non plus sans la vigilance des mortels. C'est seulement quand brusquement, semble-t-il, le monde comme monde joue le jeu du monde que, fin de citation, j'ai coupé, que la chose peut advenir. Le monde alors descend en quelque sorte dans la petitesse docile de sa simplicité. Encore la citation, en accord avec cette petitesse et cette docilité, l'action rassemblante de la chose est elle-même souple et la chose est chaque fois modique, sans apparence et docile de son être. Modique est la chose, la cruche et le banc, la passerelle et la charrue. Mais à leur manière, l'arbre et l'étang, le ruisseau et la montagne sont aussi des choses. Le héron et le cerf, le cheval et le taureau, chacun d'eux rassemblant à sa façon, sont des choses. Rassemblant chacune à sa manière, ce sont des choses que le miroir et la boucle, le livre et le tableau, la couronne et la croix. Modiques et minimes, les choses le sont aussi en nombre, mesurées au pullulement des objets, tous et partout de valeurs indifférentes. Nous pouvons traduire ou simplifier la logique et la langue heideggerienne dans la langue de Proust ou de Joyce. Et choses, ce qui s'offre comme épiphanie, comme expérience de la mémoire involontaire, lieu de saisissement et de trouble et de plaisir esthétique. On en trouve des formes diversement déclinées jusque chez Beckett, et notamment avec l'étrange portrait de Lulu dans « Premier amour », assise sur un banc, sans visage, sans âge, sans attrait pour le jeu beckettien, mais c'était compté sans la chose, l'effet de saisissement soudain devant l'inexplicable, le manchon dans lequel Lulu tient ses mains enfermées. J'avais, disent le narrateur beckettien, envie de pleurer devant cet insu, ce qu'il ne comprend pas. Du manchon, je reviens aux mains de Catherine Leroux. Et ma question, c'est quand même, sont-elles encore de Catherine Leroux? Elles sont les mains, celles qui rassemblent, bien au-delà de la personne ratatinée de la servante. Mais rassemblent quoi? Sans forcer trop le texte, je l'espère, je reviens à ces mains, hein, où il est question de la poussière des granges, de la potasse des lessives, du suin des laines. Dans l'évocation, il y a la rudesse de la tâche, ces lessives faites pour autrui, mais il y a aussi la terre avec la poussière des granges et les bêtes qui ont déposé sur elles le suin des laines. À leur caractère terrestre, auquel renvoient encore les marques terreuses, répond l'eau claire. Introduite et comme sertie par l'usage assez remarquable dans le contexte de l'évocation d'une simple servante, du subjonctif imparfait, la tournure concessive déplaçant cette eau claire en position de fin de séquence. Enfin, entr'ouvertes, elles ont ce geste de l'offrande qui tend vers les dieux. Il est bien d'ailleurs question de sa foi, juste après. Et il faut évidemment homer, esprit épais et rationnel, pour ne pas voir hein, qu'il y a là bien autre chose que un trait que Voltaire aurait pu, à son tour, critiquer. Ses mains, comme les souliers de Van Gogh, font apparaître ou restituent de l'être. Une telle lecture éclaire la balance faite ci avant entre les portraits de la Vaubyessard et celui de Félicité. La Vaubyessard, c'est bien le lieu du pullulement des objets dont parlait Heidegger. Cadre des peintures multipliées mais illisibles, des mets à foison, il y a un amoncellement, des sortes de pyramides de nourriture, mais rien à voir. Espace de vanité où les portraits sont rongés par le vide. Catherine Leroux sur son estrade est la substance, douloureuse, oui, du monde. Elle est le plein, l'empreinte du plein dans sa forme modique. Ainsi le sera Félicité d'un cœur simple hein, qui prolonge Catherine Leroux en l'apportant au stade ultime de l'offrande. Curieusement, avec les mains, et on peut aussi penser à celle de Rimbaud, vue par Mallarmé, hein, ses mains rougies de blanchisseuse, curieusement ici avec les mains, nous pouvons revenir à Van Gogh qui ne donnait pour son docteur Gachet dans la lettre qu'une précision, les mains. Des mains d'accoucheur sont plus pâles que le visage. Des pieds, des mains, marcher, tenir ou retenir, offrir, faire naître, l'homme dans le monde, l'élémentaire anthropologique et ontologique. Je conclus très rapidement en revenant à Hofmannsthal, que j'avais mentionné comme spectateur de la peinture de Van Gogh tout à l'heure et qu'ici je convoque comme l'auteur de la lettre de Lord Chandos, et je remercie Marie Blaise de m'avoir signalé ce texte-là au moment où j'étais dans Heidegger. Il y fait part du radical déplacement des valeurs que le personnage de Chandos, qui a frappé le personnage de Chandos et qui l'a éloigné de la création pour le mettre dans la position de celui qui, comme le dira plus tard Heidegger, est dans la vigilance de la chose. Témoignant de ce quelque chose qui ne possède aucun nom, il écrit « Un arrosoir, une herse à l'abandon dans un champ, un chien au soleil, un cimetière misérable, un infirme, une petite maison de paysan. Tout cela peut devenir le réceptacle de mes révélations. » chacun de ces objets, et mille autres semblables dont un œil d'ordinaire se détourne avec une indifférence évidente, peut prendre pour moi soudain, en un moment qui n'est nullement en mon pouvoir de provoquer, un caractère sublime et si émouvant que tous les mots pour le traduire me paraissent trop pauvres. La chose peut donc être un objet qui se transcende en chose, hein, un animal, un être aussi, infirme. Le critère de l'insuffisance et du manque est essentiel, tant sans tare ni manque, l'homme est vaniteux et pure vanité. Hors de cela, Flaubert est persuadé, et chez lui, le sentiment de l'incomplétude est rivé profondément, ce qui le conduit à produire ces figures ouvertes dont j'ai parlé aujourd'hui. Et je finirai de la manière suivante. Ainsi donc se tient dans la prose flaubertienne, avec la consistance de l'existence reposant dans son être, l'infime, humble, muette et offerte figure du commun, Catherine Leroux.